pour évoquer ce drapeau européen. Il y a un psychanalyste d'ailleurs, Elisabeth Roudinesco, qui s'était penchée sur les drapeaux chez Jung. On trouvait des choses sur les blasons, notamment le blason de Berne, sur lequel il y a un ours. Jung a écrit un texte à ce sujet. On trouve d'autres symboles et d'autres interprétations dans votre dictionnaire amoureux de la psychanalyse. Mais tout d'abord, votre regard sur la politique. On trouve d'ailleurs une entrée sur les présidents américains.
Ah, sur ce que je viens d'entendre, évidemment, c'est consternant. Je préfère le Mélenchon de 92, s'en prendre à des symboles. Non, ça ne va pas. C'est une dérive. Et en plus, il y a aujourd'hui, je le disais tout à l'heure, une dérive de l'injure permanente, de la surenchère politique.
Mais les psychanalystes aiment beaucoup les symboles.
Oui, oui, peut-être.
Donc s'en prendre à des symboles.
Non, mais attendez, s'en prendre au drapeau européen qu'on veut enlever du Parlement, tout de même, tout ça est ridicule. Bon, je crois que...
Vraiment, parce que, pourtant, votre métier, et lorsque vous exerciez la psychanalyse, c'était justement...
Je n'exerce pas la psychanalyse, là, je fais de l'histoire.
Oui, mais vous avez quand même un regard psychanalytique sur les choses.
J'ai essayé d'éviter dans ma vie d'avoir un regard psychanalytique sur les choses, parce que je pense que la psychanalyse, c'est trop sérieux pour l'utiliser à n'importe quoi. J'aime son histoire, sa culture, ce que montre ce livre, c'est la manière dont elle a marqué toute la culture européenne.
Bon, alors ce que Jung, par exemple, montre lorsqu'il se penche sur le blason de Berne, et il voit l'ours et il dit que l'ours est quelqu'un qui descend de l'arbre en sens inverse du sens logique, et il en déduit un certain nombre de choses. Et ce que vous Jean-Luc savez, Mélenchon fait avec le drapeau européen,
non,
c'est aussi...
je pense qu'on peut interpréter n'importe quoi, n'importe comment. Donc, c'est pas ça que je... Permettez-moi d'être un peu moins dans l'interprétation psychanalytique de ce genre de dérive que j'ai quand même critiquée. On regarde la politique avec le regard d'un citoyen que je suis. La psychanalyse, c'est quelque chose de sérieux. Il ne faut pas l'utiliser n'importe comment. Revenons à Jean-Luc Mélenchon. Je préfère celui de 92 à celui de maintenant. Je regrette évidemment cette dérive anti-européenne parce qu'on ne peut pas ne pas être européen. La seule question qui se pose aujourd'hui, indépendamment de la France, c'est comment lutter aujourd'hui contre le capitalisme fou financier qui aggrave les conditions des pauvres et qui enrichit les riches davantage. C'est la vraie question. Comment faire dans le monde entier une politique de redistribution social-démocrate? Bon, alors maintenant, la France est évidemment, c'est une situation assez compliquée parce qu'on a voté tous, moi la première, Macron, pour se débarrasser du Front National, aussi parce que on a un président relativement intelligent et cultivé, pas plus mal, mais je ne sais pas comment il va pouvoir régler le problème de l'Europe, qui est évidemment des confitures. Mais je reste assez optimiste, tout en ayant un vieux pessimisme, enfin, soyons prudents, mais je reste optimiste. Il faut que les peuples européens fassent, il faut qu'ils fassent l'Europe. On ne peut pas faire autrement. J'aimerais mieux une Europe de gauche, parce que j'ai horreur des replis identitaires, des nationalismes. D'ailleurs, pour revenir là à la psychanalyse, ce que montre ce dictionnaire, c'est que c'est une aventure profondément internationale. Si vous voulez, c'est antinationaliste, la psychanalyse. C'est né à Vienne par des juifs qui cherchaient l'émancipation des peuples, des êtres, etc. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. C'est contemporain d'ailleurs du sionisme, du socialisme. C'était des internationalistes qui parlaient toutes les langues, qui ont été capables de s'exiler, d'échapper aux dictatures. Pas toujours, hein, parce que je suis pas dans la géographie. Mais si vous voulez, j'aime beaucoup l'idée européenne et internationaliste des mouvements d'émancipation du début du XXe siècle. Marx, les socialistes, voilà, tout ça. Alors aujourd'hui, on est dans un repli nationaliste un peu partout. C'est désespérant. C'est contre ça qu'il faut lutter. Alors quand un homme de gauche comme Mélenchon vomit le drapeau européen, c'est d'une tristesse et c'est pitoyable. Je le regrette. J'aimerais mieux qu'il s'occupe d'autre chose.
Lorsque vous parlez du capitalisme, il y a une entrée argent dans votre dictionnaire.
Inévitable.
Pourquoi inévitable?
Parce que la psychanalyse et l'argent, c'est toute une histoire. Qu'elle a été accusée de tout et de n'importe quoi, de rapacité, de vol. Et j'ai bien tenu à montrer, à partir du moment où la psychanalyse, quand c'est divan fauteuil, c'est-à-dire la cure type, ce qu'on appelle, évidemment, il y a un contrat entre patient et le thérapeute, qui est, c'est payant. Voilà. J'ai montré les extravagances de certains, j'ai montré comment il y avait des critiques exagérées et en même temps des dérives. Mais la psychanalyse, ça n'est pas que ce contrat d'argent entre un patient et un thérapeute. Il y a où là, en effet, entre en ligne de compte cette question, mais la psychanalyse, elle est aussi sociale. Et il faut le dire, il y a aujourd'hui des centaines de psychologues, cliniciens, formés à l'analyse, qui travaillent partout en province, qui s'occupent des enfants, des gens en souffrance, des SDF. Il faut quand même leur rendre un peu hommage, parce qu'ils sont aujourd'hui tellement critiqués qu'il ne faut pas tout ramener, au fond, à l'argent. Mais j'ai tenu à faire une entrée argent, c'est évident.
Voilà. On a parlé des déserts médicaux durant ces matins. Qu'est-ce qu'il en est pour... la question de la psychanalyse, de la psychiatrie, de la santé mentale.
Alors, c'est différent, mais le très gros problème d'aujourd'hui, c'est l'évolution inéluctable de la psychiatrie qui est majoritairement biologique. C'est-à-dire qu'on traite tout le monde avec presque exclusivement des médicaments. Et bien entendu, on ne peut pas être contre. Mais du coup, la psychiatrie ne porte plus l'idéal de ce qu'on appelle la psychiatrie dynamique, c'est-à-dire la psychanalyse de la cure par la parole. Et donc, ce sont essentiellement les psychologues, qui ne sont pas médecins, qui sont porteurs maintenant de la mission psychanalytique. Majorité de femmes, 80% de femmes à peu près, c'est bon. Et donc, le fait que la psychiatrie ait perdu son alliance avec la psychanalyse, d'ailleurs, elle-même, elle a quasiment perdu son âme à force d'être exclusivement biologique. Donc il faudrait... Les problèmes du sujet, environnement, biologie et psychique, c'est les trois dimensions. Et il faut un équilibre. Aujourd'hui, on est dans le tout médicament. D'ailleurs, il va y avoir un retour de bâton. Parce que je le dis d'ailleurs à l'entrée folie, les patients, ils ne veulent plus être bourrés de médicaments complètement.
Mais alors, justement, parce que dans la question de la santé mentale, il y a plusieurs écoles. Vous avez évoqué dans une première partie de l'émission les injures dont la psychanalyse a été victime.
Et les injures des psychanalystes entre eux, oui.
Alors là, en plus, il y a des questions de chapelle. Je ne veux pas revenir sur les questions religieuses que nous avons évoquées avec Jean-Luc Mélenchon, mais là, il y a plus de 12 étoiles sur le drapeau psychanalytique, probablement. Elisabeth Roudinesco, la question qui se pose aujourd'hui, est-ce que, pour vous, je connais la réponse, mais je vais vous laisser la développer, est-ce que pour vous, la psychanalyse a encore quelque chose de pertinent à dire sur la psyché humaine? Est-ce qu'il faut laisser plus de terrain aux thérapies cognitives? Il n'y a pas aussi que les médicaments.
Les thérapies cognitives, c'est très bien, mais elles sont absolument minoritaires. J'ai fait une entrée psychothérapie. Il y a une floraison de psychothérapie dans le monde qui sont, c'est considérable. Tout est thérapie. Vous avez les thérapies familiales, la gestalt thérapie. C'est-à-dire qu'on a un besoin aujourd'hui de thérapie qui fait que tout devient thérapeutique. Vous avez des ateliers d'écriture thérapeutique, tout est thérapeutique. On est dans une demande d'aller mieux, de bonheur, je fais une entrée bonheur d'ailleurs. Bon. Alors la psychanalyse, bien sûr qu'elle a à dire, mais à condition que, et c'est pour ça que je rendais hommage aux cliniciens de base, aux psychologues, à condition de se rénover. La psychanalyse, c'est pas le modèle cure type trois fois par semaine, divan-fauteuil. C'est aussi les institutions. On peut tout faire avec la psychanalyse. On peut faire des cures très courtes, on peut faire ce que font les cognitivistes, on peut tout faire, puisque c'est une écoute du sujet et surtout de son inconscient.
Mais alors qu'est-ce que vous en pensez justement? Est-ce que vous pensez qu'on peut, parce que cette demande, effectivement, demande générale de bien-être, elle peut passer par une psychanalyse, elle peut passer par une thérapie brève, est-ce que vous pensez par exemple qu'on peut concilier les deux?
Absolument. D'ailleurs, ça a été fait. Je rappelle que les cures chez Freud duraient 3 mois ou 6 mois, qu'on a allongé maintenant la durée des cures en restreignant le nombre de séances par semaine. Il y a tous les modèles possibles. Mais par exemple, il y a beaucoup de pays, je pense au Brésil, à l'Argentine, évidemment, c'est le grand développement, ils ont été plus éclectiques que nous. La France vit encore dans cet état d'aristocratie, parce qu'il y a eu le renouveau de Lacan. Il y a une... Je crois vraiment qu'on peut faire beaucoup de choses avec la psychanalyse. Mais je maintiens l'idée qu'il faut de l'empathie pour les sujets. Voilà.
Et justement, puisque vous venez de parler de Lacan, on va l'entendre, Elisabeth Roudinesco.
Pourquoi dirais-je autre chose que ce dont il s'agit, justement ? Dans ce qu'il en est de l'inconscient. À savoir que le langage, ça n'a jamais, ça ne donne jamais, ça ne permet jamais de formuler que des choses qui ont 3, 4, 5, 10, 25 sens. Le sujet supposé savoir.
C'est pas simple à comprendre, non. Elisabeth Roudinesco, non. Lacan. Qu'est-ce qu'il voulait dire là ?
Ah,
le sujet supposé savoir.
Le sujet supposé savoir, quand on attribue à quelqu'un le savoir absolu. Dans la cure, le sujet supposé savoir, c'est l'analyste parce que le patient le suppose étant détenteur d'un savoir sur lui.
Et il a raison ou il a tort, patient ?
Non, ce qu'il veut dire, c'est que ça doit tomber. C'est-à-dire que si le transfert est nécessaire à la cure, l'idée que le psychanalyste détient la vérité sur tout tombe dans une cure bien menée. Écoutez, ça c'est du Lacan. Lacan est un penseur très important, il est maintenant classique, il est traduit dans toutes les langues. Moi j'ai fait une biographie de Lacan qui est traduite en 25 langues. Faut pas... Alors maintenant, les travaux sur ces questions, elles sont essentiellement celles des historiens, des littéraires. Lacan a été un personnage beaucoup plus transgressif que Freud. Il faut prendre l'héritage de Lacan. Faut être infidèle. Pour être fidèle, je reprends la phrase de mon ami Jacques Derrida, la meilleure façon d'hériter, ça n'est pas de répéter, de faire le perroquet, c'est de critiquer. C'est-à-dire, un héritage est critique. Il y a des choses magnifiques chez Lacan. J'ai fait une entrée maxime de Lacan. Je me suis beaucoup amusée à les mettre à bout à bout. C'est quand même un penseur, je le maintiens, d'après Auschwitz. Je l'ai toujours dit.
Pourquoi ?
Parce que Freud est mort en 39, n'avait pas vu... avait vu la pulsion de mort à l'état brut, l'avait pensé. Lacan l'a vécu. Et donc, il a accentué dans la psychanalyse un pessimisme, une pensée de la noirceur. Comme Adorno et Horkheimer, je dirais.
Donc deux penseurs
de l'école de Francfort, dont que j'aime beaucoup et dont je parle beaucoup, c'est l'idée de cette dialectique des lumières. Les lumières peuvent devenir très sombres, les lumières peuvent s'inverser en leur contraire. Et ça, évidemment, c'est un homme qui a vécu cette période-là. Aujourd'hui, sans aller, je ne fais pas du tout de comparaison, mais nous vivons dans un monde où il y a un obscurantisme qui monte, pas seulement religieux.
Quelle forme d'obscurantisme ?
Eh bien, par exemple, le rejet de la médecine, le rejet des vaccins, les croyances à n'importe quoi, ça monte énormément. La mise en cause complotiste des hommes politiques. Je vous rappelle que le journalisme est aussi haï que la psychanalyse. Vous en parlez souvent. Moi, j'ai pris un peu modèle sur le dictionnaire amoureux du journalisme de Serge Julie, que j'ai trouvé fondateur de Libération, que j'ai trouvé absolument formidable. Donc on est dans un monde comme ça. Et de l'autre côté, on est dans un monde aussi scientiste. On croit qu'on va résoudre tous les problèmes de la condition humaine par la science. Ben non. Par les neurones, non. C'est plus compliqué.
Mais alors, le journalisme, effectivement, est critiqué. La psychanalyse, les raisons pour lesquelles la psychanalyse est critiquée sont différentes. Mais bien souvent, on entend dire, par exemple, Lacan, c'est un charlatan. Le fait qu'il ait été doté de tant de disciples, Lacan disait lui-même, vous voulez un maître, vous l'aurez. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que, finalement, il y a eu beaucoup trop de révérence vis-à-vis de Lacan? Et c'est ce qui expliquerait qu'aujourd'hui, la psychanalyse française, eh bien, elle soit peut-être plus stérile, moins féconde que d'autres.
Oui, c'est tout à fait ça. On a eu une période... J'ai remarqué que plus une théorie était nouvelle, plus elle se transformait en dogme. On a eu ça avec Mélanie Klein, qui est moins connue en France. Et en effet, on a maintenant des chapelles lacaniennes qui parlent en jargon. Je ne vais pas m'étendre, je l'ai assez dit. C'est très mauvais pour la psychanalyse, ça existe. Mais vous savez, il faut être critique. Et en même temps, pas destructeur. Voilà, bien entendu, je suis la première à le dire. D'ailleurs, je ne suis pas très aimée par les psychanalystes,
mais
souvent.
Alors, justement, aujourd'hui, lorsque vous voyez le développement, par exemple, dans les librairies du rayon de self-help, c'est-à-dire de toute cette littérature, je l'ai dit en anglais, qui permet le développement personnel...
C'est considérable.
Comment vous interprétez ça? Est-ce que c'est une manière de dire finalement les psychanalystes n'ont pas rempli leur mission? Vous
non,
n'avez...
Je ne dirais pas ça. Je pense qu'il y a une quête du bonheur, de thérapie du bonheur, de mieux-être, de mieux vivre. Et en effet, tous les développements personnels et autres aussi, ce qu'on appelle le zen, la méditation transcendantale, tout ça, il y a une floraison de recherche du bonheur. Je ne peux pas, on ne peut pas condamner, c'est comme ça. Voilà. Maintenant, je crois qu'il y a beaucoup d'illusions dans tout ça, mais on est obligé de constater, en effet, que la psychanalyse n'a pas occupé ce terrain-là. En tout cas, en France. Ailleurs, un peu plus, c'est-à-dire, elle reprend de tout ça. Moi, je suis comme vous, frappée dans les rayons, mais il n'y a pas que ça, l'ésotérisme. Les croyances à n'importe quoi. Enfin, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est la contrepartie aussi du scientisme. Ça, c'est vraiment le constat. Et ça va, en effet, avec cette société individualiste, ce capitalisme financier. On est dans un nouveau monde, je le constate.
La volonté de mieux être, le fait de s'intéresser à soi-même, est-ce que ça renvoie, par exemple, à cette entrée narcisse qu'on trouve?
L'entrée narcisse, si vous voulez, Freud était, on va le résumer, a créé son mouvement dans une société de frustration. Donc, Édipe, frustration, les jeunes filles devaient rester vierges, les mariages n'étaient pas arrangés, mais enfin, c'était vraiment la domination pour les femmes, c'était la société de frustration. À partir des années 1960, notamment aux États-Unis, où il n'y avait plus tout ça, c'est-à-dire où il y avait une beaucoup plus grande liberté individuelle, on s'est aperçu qu'il y avait des troubles dits narcissiques, c'est-à-dire des sujets qui s'ennuyaient prodigieusement, qui étaient très mal dans leur peau, alors qu'ils avaient plus du tout d'entrave à leur liberté. Et c'est évidemment ce qu'on a appelé les pathologies narcissiques qui dominent aujourd'hui, qui ne sont pas le conflit au sens freudien ancien, mais le conflit entre soi et soi. On appelle ça les pathologies narcissiques. Et ça a pris un développement considérable. Et c'est vrai que sur les divans, c'est ça qui domine. C'est cette formidable excès de liberté, pas excès, non, formidable émancipation, qui montre en tout cas que ça n'apporte pas le bonheur absolu.
Et alors que peut faire le travail psychanalytique face à ce que vous appelez ces pathologies narcissiques, Elisabeth Roudinesco?
Là, c'est énorme. Et ça, c'est là, aujourd'hui, où probablement la psychanalyse peut agir le mieux. Parce que d'avoir un sujet qui a des problèmes avec lui-même, avec son enfance, avec l'impossibilité de faire des deuils, on va le dire comme ça, là, c'est le terrain même du psychisme. Parce qu'on ne peut pas accuser, à ce moment-là, l'environnement, la biologie, etc. Donc, au fond, c'est dépression, névrose, je dirais, qui sont les deux composantes où peut agir le traitement classique de la psychanalyse. Mais j'ajoute qu'il ne faut pas oublier le social et tous ces psychothérapeutes, psychologues, psychanalystes qui travaillent en institution avec les familles, les enfants, etc. C'est sa dimension sociale.
Vous avez prononcé le mot « famille », vous n'avez pas hésité à vous engager dans le débat public. Le débat est sur la question donc, du mariage pour tous, sur la question de l'enfant, de la PMA. Oui. Où en est ce combat, selon vous, Elisabeth Roudinesco?
Je crois que là, les psychanalystes ont fait une erreur monumentale depuis 1999, en étant condamnant systématiquement au moins 70% d'entre eux le mariage homosexuel. C'est une erreur monumentale.
Ont-ils été conduits? Parce que ça ne vient pas aussi de nulle part quand même, cette condamnation chez les psychanalystes.
Parce que beaucoup sont réactionnaires, ils n'ont pas compris l'évolution de la famille.
Parce que peut-être aussi parce qu'il y a des textes de Freud qui les ont conduits, qu'ils ont peut-être lus de manière littérale. Il faut peut-être rappeler, Elisabeth Roudinesco, que les textes de Freud, s'ils étaient par exemple écrits aujourd'hui, pourraient être qualifiés d'homophobes.
Il ne faut pas faire d'anachronisme. Quand on fait de l'histoire,
je
on fait jamais.
Je ne suis pas historien, je suis journaliste.
Il ne faut pas faire d'anachronisme. Freud a été, en son temps, favorable à l'émancipation des homosexuels, dépénalisation, condamnant la peine de mort, pour une émancipation des peuples. Il était ce qu'on appelle conservateur éclairé. Il n'y a aucun texte de condamnation. Alors, maintenant, si on dit, est-ce que Freud aurait été favorable au mariage homosexuel, il en avait pas la moindre idée, donc ne faisons pas...
Non, ça, voilà. Évidemment, c'est un anachronisme.
C'est un anachronisme.
Le fait de dire que la communauté des psychanalystes, c'est vous qui l'avez dit tout à l'heure, Elisabeth Roudinesco, était plutôt défavorable au mariage.
Ils ont utilisé la conceptualité freudienne, et notamment une dérive de ce qu'on appelle le complexe d'Édipe pour expliquer que une famille, c'était une maman, un papa et un enfant avec son complexe d'Édipe. Tout ça est ridicule parce que du point de vue, alors là, psychanalytique, c'est des substituts. Ce que montre en tout cas l'étude des enfants, de la psychanalyse d'enfants, je suis fille de psychanalyse d'enfants, je n'oublie pas ma mère qui s'occupait d'enfants abandonnés, ce que montre, c'est que le tragique, c'est la carence de soins dits maternels dès la naissance, et c'est un substitut, il faut qu'un enfant pour se développer ait au moins un substitut dès personnalisé dès sa naissance. Ce substitut, ça peut être une infirmière, ça peut être une nounou, ça peut être un homme, une femme, etc. Il faut une relation d'amour. Et donc, le problème ne se pose pas du tout de savoir s'il faut un homme, une femme, etc. Et d'autre part, on ne peut pas aller contre l'évolution de la famille en disant c'est la fin de la famille. Cette thématique, c'est au contraire. Si les homosexuels veulent se marier, ça veut dire que la famille est désirable. Ce que d'ailleurs je dis.
Alors d'un côté, PMA, on a la famille, de l'autre côté, il y a la PMA, exactement.
Écoutez, à partir du moment où les homosexuels se marient, évidemment, la question de la filiation est posée. Et c'est inéluctable. Il n'y a pas d'argument scientifique ou théorique qui tienne contre. Alors, la PMA, si on ne la réglemente pas, c'est-à-dire si on ne l'accepte pas pour tout le monde, eh bien, elles seront clandestines, on ira à l'étranger, on est dans un monde mondialisé, donc ça n'a pas de sens. Et puis, il faut arrêter de fantasmer. Tous les enfants ne vont pas naître par PMA. Ça représente quand même très peu. On continuera à faire des enfants normalement, vraiment.
Mais alors,
il ne faut pas avoir peur.
Ceux de vos confrères, je ne sais pas comment les qualifier, alors en tout cas des psychanalystes, Elisabeth Roudinesco, qui disent voilà, tout ceci met en péril l'ordre anthropologique, vous leur répondez
écoutez,
quoi?
Ils n'ont qu'à adhérer à Sens commun, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise?
Sauf c'est une possibilité.
Ça ne va pas. C'est complètement contradictoire avec, je ne sais pas moi, avec la discipline. Ça ne va pas du tout. Alors, et surtout, il ne faut pas se servir de la psychanalyse pour avoir une position idéologique de la sorte.
Elisabeth Roudinesco, le dictionnaire amoureux de la psychanalyse publié chez Plon et Seuil.